8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, que signifie être grand-mère ? Les grand-mères sont devenues des dépanneuses, comme nous l'écrit une voisine de Dakar. Elles doivent en tout cas s'adapter, c'est vrai, aux nouvelles configurations familiales. Et au-delà de la garderie d'enfants gratuite, que peuvent transmettre aujourd'hui les grand-mères à leurs petits-enfants ? Comment maintenir un lien solide sans s'immiscer dans les valeurs éducatives des parents ? Sans parler des conflits, parfois avec la belle-fille. Bref, c'est un rôle de haute diplomatie qui aurait besoin d'être, à mon avis, clarifiée. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui chez 8 milliards de voisins avec nos invités. Bonjour Viviane Coves-Masfetti.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre et vous publiez « Être grand-mère aujourd'hui ». Vous êtes universitaire également à l'université de McGill à Montréal au Canada. Donc vous travaillez un petit peu à cheval sur les deux pays. Également avec nous, Régine Florin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'école des grands-parents européens. Et au-delà de l'Europe, c'est la question de la famille à distance qui se pose dans le travail que vous faites, notamment avec une ligne ouverte pour les grands-parents qui se sentent seuls, qui ont du mal à trouver leur place, notamment évidemment les femmes qui ont de fortes attentes pour leur rôle de grand-mère et qui parfois peuvent se retrouver un peu déçues. On sera aussi en ligne avec Héloïse Pierre qui a lancé le podcast Mamie dans les orties en 2019 avec Marion Debouer et qui est co-auteur du livre Mamie dans les orties, le 20e siècle raconté par nos grands-mères, car oui, les grands-mères ont aussi une valeur historique, sociologique, de témoignage, et dans le fond, on les écoute peu. Appelez-nous en tout cas les voisins, les voisines, dites-nous, quelle que soit votre place dans la famille, racontez-nous cette relation filiale si particulière, surtout si peut-être certains d'entre vous ont carrément été élevés par leur grand-mère, maman de substitution également. Appelez-nous sur le compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins, parce que nous sommes tous des voisins.
Et des voisines. Et je vous lis quelques messages. Maya, qui est au Sénégal. Ici, les grands-mères gâtent les petits-enfants tout en leur transmettant des valeurs. Dignité, partage, honnêteté. Mais aujourd'hui, certaines ne leur apprennent qu'à danser. Bon, c'est le point de vue de Maya. Samba, à Nouakchott, en Mauritanie, nous dit que les grands-mères d'aujourd'hui sont totalement différentes de celles de la génération précédente. Elles sont plus jeunes, mais sans aucune expérience de la vie. La soi-disant grand-mère ne peut pas remplir son rôle d'éducation et comme elle travaille, elle donne moins d'affection. Elisabeth à Abidjan, aujourd'hui les grands-mères sont beaucoup plus jeunes. Et comme il y a beaucoup de jeunes mères de 16-17 ans, on est des grands-mères de 30-35 ans et elles refusent d'être des grands-mères. Beaucoup sont beaucoup plus préoccupés par leur propre vie. Altiane, à Brazzaville, au Congo. Ma mère est une grand-mère de 4 petits-enfants. Elle vit en France et du coup, elle passe du temps avec eux, mais virtuellement, sur Internet. Ils parlent, ils causent, ils font des projets. Écoutez aussi ce voisin en République démocratique du Congo, cette fois.
Bonjour, lumière des voisins. Ici au Congo, RTC Prisma Lubumbashi. La grand-mère est considérée comme une sorcière. Quand tu es dans les troisième âge, tu es abandonné par tes enfants, tes petits-fils. Et puis, la vie ici au Congo est un peu compliquée, hein, à RDC. Tu fais les commandes, tu demandes ça et là, et pour survivre. Vraiment, être grand-mère ici au Congo, ce n'est pas facile. Merci.
Alors ça, voilà un témoignage qui tord un peu le cou avec la légendaire solidarité familiale sur le continent africain. Mais c'est vrai qu'on a aussi reçu des témoignages de femmes accusées de sorcellerie quand elles sont âgées, comme par hasard qu'on a besoin de se débarrasser d'elles également et de les isoler. C'est souvent relié en fait aux difficultés économiques. Et vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 7 64 45 51. 41, peut-être qui veut réagir, Viviane Coves-Masfetti, sur les témoignages qu'on a entendus ?
Ah ben quand même, la grand-mère sorcière, ça interroge. C'est vrai, on est un peu étonnés, on s'attendait au contraire que la génération un peu plus âgée trouve plus facilement sa place chez nos voisins que chez nous. on s'aperçoit qu'en fait, en tous les cas, d'après vos témoignages, aucun ne le présente de cette façon.
En tout cas, il y a tous les cas de figure. Régine Florin, vous êtes présidente de l'École des grands-parents européens. Et au-delà de l'Europe, les grands-parents sont évidemment confrontés au métissage culturel des familles. Alors pourquoi une école des grands-parents européens ?
Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas nous qui décidons de devenir grands-parents, ce sont nos enfants. Et nous dépendons carrément, les grands-parents, véritablement, c'est par le bon vouloir de nos enfants que nous devenons grands-parents. Eh bien, on ne rentre pas de manière innée, comme ça, dans le rôle de grands-parents. Et bien finalement, grâce à cette école de grands-parents, en échangeant nos pratiques avec des groupes de parole, des cafés des grands-parents, des entretiens, des coups de téléphone et tout ça, nous apprenons à devenir grands-parents. Je vais citer Geneviève de Taine, qui est psychanalyste connue, qui intervient au Centre Sèvres, que nous avions lors de notre dernier colloque sur la famille à distance, qui disait « c'est une assaise d'être grand-parent ». Écoutez, je le vivais déjà dans mes consultations, mais là, j'ai vraiment, depuis que je suis grand-mère, j'ai appris à me taire. Ouais. C'est une assaise.
Apprendre à se taire. Est-ce que c'est ce qui est le plus difficile quand on devient grand-parent, Viviane Coves-Masfetti ?
Alors d'abord, je respecte tout à fait Régine et l'école des grands-parents, mais la grand-parentalité peut être très gaie, très joyeuse et apporter beaucoup de bonheur. C'est vrai que ça n'est pas toujours le cas. Je suis parfaitement d'accord que on dépend totalement de ses enfants. Les relations avec nos petits-enfants dépendent en grande partie, si ce n'est en totalité, des relations que nous avons établies avec nos propres enfants, avec cette différence notable des enfants du fils et des enfants de la fille, sachant que souvent, c'est la maman qui décide de beaucoup de choses et que quand il s'agit des enfants du fils, on est en concurrence directe avec la mère, puisque les enfants ont plusieurs grands-mères, ce qui peut éventuellement aussi poser des problèmes. Mais je voudrais juste apporter une note joyeuse sur le fait que quand même, in fine, être grand-mère, a priori, est un bonheur et que d'ailleurs, ne pas l'être peut être un grand malheur.
Alors, vous nous appelez, bien évidemment, pour nous poser des questions, pour nous appeler, témoignages joyeux ou plus conflictuels, hein, au 33 7 64 45 51 41 pour les voisins et les voisines, quelle que soit, bien sûr, votre place, hein, dans la famille que vous soyez. Grand-mère, petits-enfants, etc. Mais aujourd'hui, tout de même, on a quand même votre, puisque toutes les deux, vous êtes grand-mère d'ailleurs.
Oui.
Vous êtes à un âge, enfin, une génération charnière dans tous les bouleversements de la famille. Je pense notamment à la mondialisation des familles, aux recompositions des familles. Comment vous voyez ça ?
Alors, moi, je peux vous dire que personnellement, moi, j'ai vu une grande parentalité très, très heureuse. Hein. Les chiffres sont clairs. L'IFOP a fait une enquête en 2021.
Pour la France.
94% de relations familiales, ça se passe très, très, très bien et dans le grand bonheur. Malheureusement, comme nous, avec notre ligne Allô grands-parents, là, le fameux 01 45 44 34 93, évidemment, qui appelle là où il y a des conflits, où là, il y a des difficultés pour essayer de détricoter un petit peu comment on a pu s'attraper. Et puis, chacun s'est drapé dans sa dignité. Et puis, en fait, les petits-enfants manquent. Évidemment, nous, on n'a jamais de coup de téléphone qui disent « Bonjour, j'appelle parce que je suis très heureuse d'être grand-mère.
Oui. » Quand deux grand-mères se rencontrent,
Toutes nos histoires de grands-parents, de grand-mères, et on se montre les photos de nos petits-enfants.
Et toi, tu les vois suffisamment, tes petits-enfants ?
Ben
c'est
oui,
un peu ça, non ?
Mais bien sûr, et puis on se montre toutes les photos.
Alors bon, moi, j'ai fait ce livre à partir de témoignages de 45 grands-mères qui, quelque part, n'a rien à voir avec le nombre de grands-mères dont vous entendez parler. Et je ne prétends pas, évidemment, que ces 45 grands-mères représentent la grand-méritude totale. Mais bien évidemment, il y a une grande, grande diversité des situations. Et c'est surtout là-dessus que je voudrais insister. Une grande diversité sociale. La question des moyens financiers est beaucoup plus importante qu'on pourrait l'imaginer. En particulier, aujourd'hui, je dirais qu'une des grosses différences, peut-être, c'est l'éclatement géographique. Pas forcément pour être dans un pays très lointain, mais déjà, vous n'habitez pas la même ville que votre enfant. Vous êtes à moins de 30 minutes de chez vos enfants. Le rôle que vous jouez dans l'aide, dans l'appui, est déjà très différent. Et donc, si vous n'êtes pas dans la même ville, alors se pose la question des transports, du prix des transports. Les prendre pendant les vacances, ben, faut une maison. Alors, ou on a la chance d'en avoir une, ou ben, faut en louer une, donc les moyens qui vont avec, etc. Donc, je me suis aperçue qu'il faut quand même parler franchement. Il y a vraiment une question matérielle. Après, il y a une question psychologique qui est aussi assez importante, parce que ou la grand-mère a une vie, où, entre guillemets, elle attend ses petits-enfants. Et là, on est dans deux univers très différents de la place qu'on veut donner aux petits-enfants. Moi, j'ai des grand-mères qui disent, et d'ailleurs, je le vois dans les témoignages qui sont là et qui s'en plaignent, j'ai une vie et ma vie n'est pas mes petits-enfants. Les petits-enfants, ils ont des parents. Et donc, moi, je veux bien être en appui, mais pas à la place d'eux.
Alors, justement, aider les enfants en gardant les petits-enfants, jusqu'où?
Voilà, donc on voit que en France, en tout cas, le mode de garde principal par les grands-parents n'existe pratiquement pas. C'est très très minoritaire. Les grands-parents sont un appui, mais pas le mode prioritaire, sauf des cas très exceptionnels. La maman est morte, voilà, des choses de ce genre. Alors j'ai travaillé un peu, enfin pas un peu, beaucoup en Europe, en particulier dans les pays ex de l'Est. Et par contre, là, on a pratiquement une grand-mère sur trois qui vit avec les parents. Donc là, on est dans un autre monde. J'ai travaillé d'ailleurs sur les effets sur la santé mentale des enfants, qui est loin d'être évidente, avec les conflits qui peuvent se passer et l'ambiguïté de rôle qui est un peu complexe.
Je vous lis un message d'Anna qui a 29 ans à Dakar, qui a un fils de 5 ans et qui a une maman de 58 ans, donc une jeune grand-mère. Ma mère dépasse son rôle de grand-mère. Elle s'est arrêtée de travailler pendant 2 mois pour m'aider. Et quand elle rentre du travail, elle se jette sur son petit-fils. Elle peut le réveiller s'il dort. Elle s'oppose à ce que je sois dure avec l'enfant. Elle dit que je torture son petit-fils. Elle a voulu lever la main sur moi. Comment vous voyez cette forme d'appropriation où quand l'enfant paraît, tout d'un coup, il y a une histoire qui se rejoue avec sa propre maternité quand on est grand-mère, pour certaines femmes?
Ah oui, tout à fait. Et je peux vous dire que cette jeune maman ferait bien d'appeler notre ligne Allô Grands-Parents, et même si elle pouvait venir, on l'accueillerait à bras ouverts.
Elle est à Dakar, un petit peu loin, mais c'est un peu loin.
Nous avons des jeunes grands-parents que nous recevons.
Ce sont des témoignages que vous entendez,
ça? Sur des témoignages comme ça, mais bien sûr que nous avons
ça. Déjà, ça va rassurer Anna.
Mais absolument. Et nous expliquons véritablement à la maman comment s'y prendre pour que les grands-parents restent à leur place, toute leur place, mais n'empiètent absolument pas.
Mais ça veut dire couper son propre cordon avec sa mère?
Ah ben non, c'est pas ça. C'est-à-dire rester à sa place de grands-parents. L'éducation est le rôle des parents. Voilà. La mère a toujours raison, on dit carrément quand on entend des choses comme ça. Moi, je vais vous dire quand même, au niveau aide en France, effectivement, on n'aide pas beaucoup, mais on est quand même, c'est assez impressionnant, on est quand même à 650 000 emplois d'aide maternelle à temps complet que les grands-parents assurent en allant les chercher le soir, des fois, pour dépanner le mercredi, ou quand il n'y a pas la maîtresse, ou quand des choses comme ça, ce qui est quand même non négligeable.
Un sacré rôle économique aussi pour les familles.
Et 22 jours par an, c'est une moyenne pourtant, hein. Il y en a qui ne les prennent pas. Il y en a qui les prennent.
Non, ce que je voulais dire, c'est en tant que mode de garde complet.
Voilà, je suis tout à fait d'accord.
Par contre, l'aide, je ne la discute pas. Mais en tant que mode de garde complet,
Elle est là et elle n'est pas du tout reconnue.
Ce qui veut dire qu'une grand-mère qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, vous l'évoquiez, hein, vous disiez, c'est vrai que ce n'est pas simple de s'occuper de ses enfants en vacances, surtout pour les femmes qui habitent en ville et qui. On n'est plus dans les époques où on a des maisons à la campagne, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais ceci dit, rien que le fait d'aller chercher l'enfant à l'école, si on a la chance d'habiter dans la même ville, ça constitue une véritable aide économique, quels que soient ses propres moyens. Et ça peut rééquilibrer pour les femmes qui ont le moins de moyens financiers. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On parle de cette vraie relation, ou pas d'ailleurs, entre les grands-mères et leurs petits-enfants. Annie nous appelle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour Annie.
Bonjour.
Soyez la bienvenue Annie, on est ravis de vous avoir au téléphone parce que vous êtes la grand-mère de Lucas qui a 10 ans maintenant et vous avez dit au standard à Delphine, je ne suis ni maman ni mémé, vous êtes une copine pour Lucas.
Effectivement.
C'est comme ça que vous concevez votre rôle?
En fait non, c'est le rôle qu'ils m'ont attribué, je suis une grand-mère atypique,
Et quand vous dites il, c'est qui?
Les petits-enfants.
Ah, d'accord.
Tous.
Combien vous en avez au total?
J'ai les miens et puis j'ai ceux de mes sœurs, de mes frères. J'en ai beaucoup.
C'est ça.
Et je suis la grand-mère de tous les petits-enfants.
Ouais. Voilà.
Donc, ce qu'il y a avec eux, c'est que je suis une copine d'abord. Je suis sévère, mais j'explique. Parce que souvent, les parents, ils punissent les enfants sans leur expliquer. Mmh. Moi, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup avec eux. Je leur explique pourquoi je suis fâchée, pourquoi il faut faire telle chose. Et ça marche. Mmh.
Mais comment, comment vous expliquez cette complicité que vous avez avec vos petits-enfants ?
Aucune idée. Peut-être parce que j'ai oublié de grandir. C'est peut-être ça.
Ah oui ? C'est-à-dire ? Vous aimez jouer avec eux ?
Parce que... Oui, parce que parfois, je leur demande, au fait, j'ai quel âge, moi ? Moi, j'ai plus 10 ans, j'ai plus 5 ans. Ils me disent, mais oui, tu as le même âge que nous. Et il y en a qui ont quelque chose de formidable. C'est des jumelles. Elles sont nées pas le même jour que moi, la même date, le 21 janvier. Donc, on est copines parce qu'on est trois jumelles. Mmh. On est des triplés. Et on s'entend très, très bien.
Viviane...
Elles ont moins de 12 ans, là, maintenant. Elles ont 10 ans.
Restez d'ailleurs en ligne avec nous, Annie. Viviane Covas-Masfetti veut intervenir.
Alors, moi, je trouve que c'est un témoignage super sympa. En même temps, vous dites que vous êtes copines. Ce que je comprends, c'est que, si je puis dire, l'enfant, vous... a du plaisir à être avec des enfants. Ce que j'apprécie aussi, c'est que quand même... Ouais, vous êtes une copine, mais enfin, vous dites ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qui est bien et ce qui est pas bien. Vous le dites oui. Différemment des parents, apparemment, mais vous le dites. Ce qui fait que vous avez quand même un rôle, on va dire, éducatif. Mmh. Et la question qui va se poser, effectivement, c'est comment ce rôle éducatif, qui apparemment est un petit peu différent de celui de ses parents, se joue avec les parents. Mmh.
Qu'est-ce que vous apportez, alors justement, vous, Annie, en tant que grand-mère copine ?
Bon, parfois, c'est pas facile avec les parents. Bon, j'évite, je parle quand même aux parents aussi. Hein. J'explique pourquoi j'ai dit ça, pourquoi, quand ils reviennent du boulot, pourquoi ça s'est passé comme ça.
Ah oui.
Et puis, je les laisse pas dans le vide, quoi.
C'est vrai. On sent la diplomate. Vous êtes obligé de faire de la diplomatie. Vous savez, il y a les grands-mères dans le studio qui rigolent en vous écoutant, parce que je crois qu'elles se reconnaissent.
Je suis diplomate.
Oui,
on sourit.
Vous êtes une sage philosophe. Voilà.
Merci. C'est pas facile.
Absolument.
C'est pas facile, mais je pense que si on arrive à rester à notre place, à ne pas être une maman de substitution, donc je fais pas la garde des enfants, je prends le bon côté, le reste je le laisse aux parents. Mais ça marche.
Eh bien, en tout cas, merci pour votre témoignage, Annie de Kinshasa. Merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous. On accueille Félicia qui est à Dakar. Bonjour Félicia.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue. Quatre petits-enfants et vous avez comme une question à poser et à discuter avec nos invités. On vous écoute, Félicia.
Alors là, le rôle de la grand-mère, j'ai entendu une des dames en parler tout de suite.
Oui.
Que nous ne pouvions pas remplacer quand même le parent. Mmh. Mais entre guillemets, on peut toujours les remplacer parce que nous, en Afrique, nous gardons toujours cette éducation que nous avons reçue de nos parents. Parce qu'on ne peut pas leur garder leurs enfants et les laisser faire ce qu'ils veulent.
Oui, ça vous donne un droit de regard, finalement. C'est ce que vous estimez.
Un droit de regard, voilà. Parce qu'eux, ils n'ont plus le temps. Peut-être les moyens ne leur permettent pas de les amener toujours à la garderie.
Mais quels sont les sujets de conflit, là ? On sent qu'il y a une petite pointe de colère, parfois, dans ce que vous dites, Félicia.
Effectivement, parce que j'ai entendu parler les grands-mères qui sont autour de vous, que nous n'avons pas peut-être de droit d'éducation sur ces enfants, alors que demain, nous serons tous pointés si cet enfant réussit ou qu'il ne réussisse surtout pas.
Mais qu'est-ce qui vous chiffonne, là, Félicia ? C'est quoi le sujet de conflit du moment, là ?
Le laxisme des parents.
Ah bon ?
Ah oui.
Et sur quoi, par exemple ?
La nouvelle génération est très laxiste.
Oui.
Parce que pour ne pas se faire... indisposés par les enfants. Tous les enfants à un certain âge ont déjà un smartphone. Uh-huh. Voilà, leur manque de sociabilité.
C'est-à-dire que vos petits-enfants, ils ont quel âge là ? Ils ont tous un smartphone à quel âge ?
Entre le premier l'a eu peut-être à 4 ans, 5 ans.
Oula ! Ah oui.
Voilà. Voilà, maman, tu te donnes le téléphone.
Alors, vous avez donné.
Là, tu restes dans ton coin.
Vous avez donné votre point de vue de grand-mère, là?
Alors là, ça, à plusieurs reprises. Quand ils sont chez eux, bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais chez moi, personne ne vient avec un smartphone et je ne prête pas le mien.
Très bien. Et finalement, la règle est établie, elle est claire pour vos petits-enfants, elle est acceptée?
Très claire, acceptée, très parce clair. Que ce sont mes amis. Mm. C'est eux-mêmes qui réclament de venir chez moi parce que je les gâte beaucoup. Voilà. Mais il faut qu'ils soient tous unis et sociables.
Oui.
Parce que je ne reçois pas seulement mes 4 petits-enfants, mais j'en reçois bien d'autres.
Bon, on sent comme une petite revendication vis-à-vis de,
ces... Non.
Alors bon, je voudrais évidemment rebondir sur ce que vous dites. Effectivement, dans mon livre, j'ai appelé ça la loi du sol. Enfin, c'est pas moi qui l'ai appelé, c'est les grands-mères. C'est-à-dire, elles disent, chez moi, on fait mes règles et chez les parents, on fait leurs règles. Après, faut bien qu'on se comprenne. Quand on dit les grands-parents ne sont pas les parents, il y a la question éducative. Et effectivement, quand les enfants sont chez vous, on peut comprendre que vous mettiez vos règles éducatives et les parents mettent les leurs. Après, il y a quand même le problème affectif qui est un peu plus compliqué. Les parents restent quand même les parents avec un lien unique. Les grands-parents ont aussi un lien unique d'ailleurs. Mais
ça peut... il est plus fort, vous coupe là.
Coupez-moi, j'écoute.
Le lien est plus fort, oui.
C'est-à-dire?
Le lien entre ma grand-mère, ce que je ressens pour mes petits-enfants, c'est plus fort que ce que j'avais pour mes propres enfants.
Ah bon?
Et ils les sentent, les enfants. Ah oui, c'est un lien qui est très fort.
Il y a comme une petite jalousie parce que vous êtes plus disponible aussi en tant que grand-mère.
Oh, pourtant pas.
Non?
Oh non.
Non, mais ça fait quand même une différence. Ça fait quand même une différence. C'est-à-dire, là, on n'est pas en train de comparer... les liens que vous avez avec les liens que vous avez, mais on est en train de comparer le point de vue des enfants, c'est-à-dire eux vis-à-vis de leurs parents versus eux vis-à-vis de vous. C'est ça qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que vous adoriez vos petits-enfants, c'est tout à votre honneur et c'est une grande richesse pour eux. Après, il faut que eux, ils puissent intégrer tout ça.
Est-ce qu'il n'y a pas une confusion possible pour les petits-enfants quand les règles sont si différentes d'un sol à l'autre, comme vous le dites, c'est-à-dire d'un domicile à l'autre?
Elles ne sont pas... Alors, bonjour Félicia.
Oui, bonjour.
Moi, je prends souvent mes petits-enfants. Ils savent très, très bien la règle qui est chez nous et la règle qui est chez les parents. Mm-hmm. Et quand les parents nous disent « faites pas ceci, pas cela », on respecte également les règles que donnent les parents. Et les petits-enfants, alors là, ils rangent leur chambre. Ils font attention que les serviettes éponges ne traînent pas. Ils respectent ceci. Vous inquiétez pas, ils le savent très, très bien. Et ils nous aiment de manière inconditionnelle. Vous avez raison. Je vais vous donner la belle phrase de mon petit-fils de 9 ans la dernière fois. On était serrés l'un contre l'autre. Et je lui dis « qu'est-ce que je t'aime, mon petit-fils ?» Il me dit « Mamé, tu n'imagines pas, je t'aime encore plus fort que tu m'aimes. » Vous avez raison, il y a un lien très, très fort.
Moi, on m'appelle ma kiki
d'amour. Ah, c'est magnifique.
Je voudrais dire quelque chose.
D'amour. Oui.
Je peux ?
Viviane, allez-y.
Oui, alors, j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça, absolument adorables, de grand amour, des petits-enfants et des grands-parents. Après, il ne faut pas oublier qu'ils vont partir, les petits-enfants.
Eh oui.
C'est-à-dire, c'est un lien merveilleux quand ils sont petits.
Dès l'adolescence.
Ça devient un peu plus compliqué quand ils sont grands. Et c'est aussi... Alors, il y a déjà donc, cette question de l'articulation pour les enfants. Je vais en avance de quelque chose dont vous vouliez parler.
Mais non, mais on va en parler, bien sûr, de l'adolescence, du départ. Parce que c'est vrai que dès l'adolescence, les enfants ont de multiples activités. Hein, et parfois, il y a un éloignement avec les grands-parents. En tout cas, merci beaucoup, Félicia, de nous avoir appelés. Quand la grand-mère se confond avec la mère, je vous propose d'écouter le témoignage de ce voisin à Nouakchott, en Mauritanie.
Bonjour à toutes les voisins et les voisines, c'est Baba Galé depuis Nouakchott. Moi, personnellement, j'étais éduqué par ma grand-mère, c'est elle que je connaissais depuis tout petit. Et c'est elle qui me donnait des instructions, c'est elle qui me nourrissait. Je pensais que même c'était ma mère. À présent même, je l'appelle maman au lieu de grand-mère. Vous voyez, personnellement, il y a des gens qui me disent que toi, tu es bien éduqué, et voilà. Donc tout ça, c'est grâce à elle. Elles sont magnifiques. Allez, bonne journée à tout le monde. merci.
Voilà, tout ça, c'est grâce à elle. Quand la grand-mère se confond avec la mère, c'est le cas dans de très, très nombreuses familles du monde. D'abord, quand aujourd'hui, avec les migrations, des femmes partent, laissent leurs enfants à leur propre mère parce qu'elles ne peuvent pas les emmener. Elles vont les récupérer quelques années plus tard. Ça aussi, ce sont des situations familiales extrêmement courantes et qui ne sont pas si mal vécues, d'ailleurs. Hein. Et puis, d'autres configurations familiales aussi, hein, où c'est la grand-mère qui a la charge des enfants.
Bah quand même, je suis un chercheur sur ces questions-là. Il y a quand même pas mal de papiers scientifiques qui sont sortis, en particulier en Chine, sur les enfants qu'on appelle « left behind », c'est-à-dire laissés derrière.
Les parents sont partis vers les villes
pour
trouver du travail.
Absolument, dans les pays de l'Est aussi. Donc, il y a quand même... pas mal de littérature sur le fait que la santé mentale des enfants dont les parents sont partis et qui sont laissés aux grands-parents peut être quand même affectée. Alors évidemment, après, il y a différents contextes. Je ne suis pas sûre que le contexte africain soit le même que le contexte chinois ou que le contexte d'Europe de l'Est. Parce qu'il y a aussi des traditions familiales, il y a aussi une forme d'affection. Voilà, ça dépend des grand-mères. Ce monsieur qui vient de témoigner a un témoignage adorable et c'est formidable pour lui. Mais les grand-mères ne sont pas toutes aussi adorables. Il y a quand même des grand-mères un peu dépassées, des grand-mères sévères, des grand-mères qui n'avaient pas envie de ça. Enfin voilà, on ne peut peut-être pas non plus amplifier.
Et le Code civil de la France ne va pas dans ce sens-là, puisque c'est fonctionne à l'envers, c'est les petits-enfants ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec leurs grands-parents. C'est le petit enfant qui va demander à entretenir. Et pour avoir travaillé sur le sujet, on a eu des avocats qui sont venus, qui nous expliquent, vous savez, quand les parents sont
fâchés avec leur propre...
Non, quand il y a déficience au niveau de l'éducation. Très souvent, l'aide sociale à l'enfance va prendre le relais. Il n'est pas sûr du tout qu'on aille rechercher les grands-parents.
Tout à fait. Interviewer les
Anglais. Je travaille entre autres, puisqu'on est une école des grands-parents européens, on a des témoignages de partout. Kindship in England, on a des témoignages en anglais. Terre où véritablement là, on l'a bien vu dans les films de Cannes, de toute façon, là il y a déficience, les enfants ne sont pas bien, on va souvent chercher les grands-parents et les grands-parents assurent avec tout un accompagnement pour qu'ils puissent assurer.
Vous nous appelez les voisins et les voisines, quelle que soit votre place dans la famille, racontez-nous cette relation avec la grand-mère, si vous-même vous êtes grand-mère, bien sûr vous nous téléphonez au 33 7 64 45 51 41, on se retrouve juste après Vincent Aéninou.
A mon frère un bonzan, sans mon frère un bonzan, a mon frère un bonzan, mando y kouna o, a mon frère un bonzan, mando y kouna o. Sanu no ejiwe bozanu babatoe Sanu no zotoe bozanu no ejiwe Sanu babatoe bozanu no ejiwe Yewe kaji adoe basuko asole
Dawe ji adoe basuko asole
Yewe kaji adoe basuko asole
Naewe ji adoe basuko asole
Asubo asole Asubo asole
Asubo asole
A subo a sole
A subo a sole
Vous écoutez 8 milliards de voisins, on est avec des grands-mères extrêmement bavardes sur RFI, nous sommes en direct. Que signifie être grand-mère aujourd'hui? Ces grands-mères qui sont devenues des dépanneuses, comme nous le disait une voisine, en tout cas qui sont extrêmement présentes pour garder leurs petits-enfants, mais parfois aussi qui sont lointaines du fait de ces familles éclatées géographiquement, à distance. Et nous accueillons Héloïse Pierre qui est en direct avec nous. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Votre podcast sur les grands-mères est plutôt né, là, cette fois-ci, à partir, non pas de la place de la grand-mère dans la famille, dans la vie des petits-enfants, mais à partir de questionnements sur le droit des femmes, sur leur place dans l'histoire.
Oui, tout à fait. On a créé Mamie dans les... documenter, se renseigner et maintenir le lien aussi entre les petits-enfants et les grands-mères pour ne pas oublier d'où on vient. Donc, on interviewe des femmes de plus de 70 ans. Elles nous racontent leur vie et en fait, au travers de leur histoire personnelle, ça raconte la grande histoire. Et il se trouve que souvent, dans la grande histoire, il y a un peu ce qu'ont vécu les femmes. Et donc, c'est passionnant de les écouter.
On a un petit problème de ligne téléphonique. On va essayer de vous appeler sur l'autre ligne, Héloïse Pierre. Mais pendant ce temps, je rappelle que votre le podcast Mamie dans les orties a démarré en 2019, que vous en êtes à la 45e mamie. D'ailleurs, c'est le même nombre de mamies qui témoignent dans votre livre, Viviane Coves-Masfetti. mais là, beaucoup plus sur, on va dire, sur la sphère intime, hein, sur la place des grands-mères dans la famille. Est-ce que Viviane Coves-Masfetti, les grands-mères, on les interrogent sur ce qu'elles ont vécu ou on attend d'elles plutôt qu'elles apportent une aide directe, que ce soit une aide affective, une aide matérielle, une aide de présence, une aide de soins.
Alors, je pense que c'est très difficile de parler des grands-mères en général parce que y a vraiment différentes composantes suivant les milieux. Moi, ce dont je peux témoigner dans les 45 grands-mères que j'ai interviewées, c'est que bien entendu, l'histoire les intéresse, ce qu'elles ont vécu les intéresse, la transmission les intéresse. Il y a la transmission des valeurs, alors des valeurs générales comme le respect de l'autre, la curiosité, le sens de l'effort, etc. Après, il y a des histoires beaucoup plus douloureuse, en particulier durant la dernière guerre mondiale, celle dont la famille a été déportée. Alors comment en parler aux enfants sans être quand même trop dramatique? Tout ça n'est pas forcément facile. Il y a la question de la religion qui est compliquée. Je ne m'attendais pas d'ailleurs, parce que j'avais une question sur est-ce que vous souhaitez transmettre et transmettre quoi? Et je me suis aperçue que la question, parce que un des points fondamentaux, c'est la recomposition. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être contrairement à d'autres générations, il y a une mixité très importante et en plus un nombre de couples qui se dénouent, qui est aussi très important, ce qui rajoute en plus des complications.
Mondialisation, recomposition familiale, oui, on en parlait au début de cette émission, également avec vous, Régine Florin, vous êtes la présidente de l'école des grands-parents européens. Héloïse Pierre, on vous a retrouvé au téléphone. Dans ce podcast, finalement, vos grands-mères, que vous rencontrez grâce souvent aux petits-enfants, des petits-enfants qui sont soit adolescents, soit un petit peu plus âgés, vous leur redonnez une fonction collective dans la société, dans la transmission d'informations historiques.
Oui, tout à fait. Et alors, bon, moi, je parle à des grands-mères qui parfois sont assez vieilles, donc peut-être pas exactement au même âge des personnes que j'ai pu entendre là au début de l'émission. Et souvent, à partir d'un certain âge, la vieillesse étant, et on a beaucoup de mots, on n'est plus vu comme avant. Les personnes aussi ont du mal à imaginer qu'on a eu une jeunesse. Et donc, en leur rappelant, en leur demandant de nous raconter, ça aussi ouvre une autre vision de la personne qu'on a en face de nous. Ça les met au même plan que nous. Elles ont souvent vécu des histoires d'amour incroyables qu'elles nous ont pas racontées. Elles ont eu, elles aussi, des secrets. Elles ont eu des échecs. Elles ont eu des moments durs. Et de recréer ce lien, je trouve, entre petits-enfants et grand-mère, ça fait que ça... Voilà, je trouve que ça change la relation. En tout cas, moi, ça la change avec mes grands-mères et avec les petits-enfants qui ont écouté le podcast et qui nous ont demandé d'interviewer leur grand-mère quasiment à chaque fois. Pourtant, c'était des petits-enfants assez proches de leur grand-mère. Chaque fois, ils nous disaient « Waouh, c'est fou, je ne savais pas que ma grand-mère avait vécu ça. »
Oui, notamment...
parce qu'en fait, souvent, notamment on n'ose pas demander.
Oui, notamment de grandes questions qui ont agité la grande histoire, notamment sur l'avortement.
Exactement, ouais. Je pense que l'avortement, c'est un sujet très très tabou, et pour autant, ma génération, on pense que c'est un sujet où on est très libre d'en parler, qui est acquis depuis des lustres. Or, nos grand-mères, il y en a quand même beaucoup qui ont avorté, légalement, illégalement, voilà, peu importe, c'est quand même très fréquent. Tout cas, c'était un sujet qui l'était, et donc c'est assez intéressant et important de collecter ces témoignages. Ouais.
Et des sujets quand même très intimes, donc des femmes qui racontent leur époque, mais qui disent, qui racontent dans ce podcast ce qu'elles n'ont jamais pu vraiment dire à leurs enfants ou petits-enfants, peut-être aussi parce que personne n'a su les questionner.
Bah oui, tout à fait. Je crois que la première fois où moi j'ai demandé à ma grand-mère « Comment tu as fait, mamie, pour n'avoir que 3 enfants ?» Elle m'a regardé avec un sourire et elle m'a dit « Ah, ben, c'est marrant que tu demandes. » Et en fait, je pense que personne ne lui avait demandé. Oui. On oublie de demander, mais en fait, c'est une vraie question. Comment elle a fait? et simplement, si on ne demande pas, ben, on ne va pas autour d'un repas de famille dire « Eh, au fait, les gars, moi, j'ai dû avorter avec un cintre, j'ai dû avorter avec je ne sais pas quoi. » Enfin, c'est pas quelque chose dont on va parler naturellement. Par contre, très souvent, elles sont très contentes de le raconter. Elles se souviennent très bien, leurs souvenirs sont très, très précis. Parfois douloureux, parfois pas. Elles se souviennent de tout ce qui s'est passé. Enfin, c'était vraiment des témoignages très précieux et importants.
Vous avez même de jeunes garçons qui s'intéressent à la vie de femmes qui a eu leur propre grand-mère.
Oui.
Ça vous a surpris ?
Oui, ça m'a pas surpris, mais ça m'a fait très plaisir parce qu'aujourd'hui, Mamie dans les sorties, c'est 90% d'auditrices avec plus de 2 millions d'écoutes. Et j'avoue, quand on reçoit un message d'un petit enfant, on est très content de voir que ça dépasse la barrière des femmes. Et on a des petits-enfants géniaux. Je pense à Jean-Baptiste et à sa grand-mère qui m'ont beaucoup, beaucoup touchée. Ils nous avaient même demandé de venir. Donc, on est allé rencontrer sa grand-mère qui a eu une vie incroyable. Et je trouve ça très beau aussi d'essayer de comprendre d'où viennent les femmes et d'où viennent les femmes qui ont fait qu'ils sont hommes aujourd'hui et qu'ils sont. Et je pense que ça a été un exercice pour lui, un travail très important.
Oui, et comment ces jeunes garçons peuvent se projeter dans leur relation avec les femmes à partir de l'histoire de leur grand-mère, finalement, hein. C'est une autre histoire des femmes, cette histoire de grand-mère.
Exactement, et souvent, ça explique plein de choses, plein de non-dits, plein de... Je pense à une mamie qui a eu un enfant mort-né et qui ne l'avait pas vraiment dit. Enfin, sa mère, la mère de la petite fille le savait, mais la petite fille ne le savait pas. Et quand elle l'a su, elle a compris plein de choses, plein de non-dits. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui, parfois, dans les choses tragiques qui, aujourd'hui, ne le sont plus forcément, permettent de mieux comprendre. Et je pense à un autre petit enfant qui allait devenir papa et qui attendait une fille. Et il m'avait appelé après l'interview de sa grand-mère en pleurs, en me disant que vraiment, c'était un cadeau très précieux à transmettre aussi pour que chacune et chacun puisse se construire.
C'est intéressant ce podcast. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Viviane Covas-Masfetti et Régine Florin, parce que dans l'ensemble, souvent, on ne questionne pas tant que cela les grands-mères. On leur demande, alors on peut leur demander leur avis sur l'éducation des petits-enfants, mais on leur demande surtout d'écouter et de s'occuper des autres, non ?
Mais c'est tout à fait ça. Héloïse, félicitations pour ce que vous faites, parce que très souvent, les grands-parents disparaissent, et nous, notre génération, qui ont vu nos grands-parents partir beaucoup plus tôt, maintenant on peut aller jusqu'à 90 ans, mettons, mais nous, on les perdait, ils avaient 70, 71 ans. On a dit, mais pourquoi n'avons-nous pas posé ces questions ? Eh bien, parce que la vie va en avant et que je crois que c'est un peu plus tard qu'on se pose ces questions. Mais bravo et merci, parce que nous, on a organisé des ateliers philo et des ateliers d'écriture sur la transmission familiale. Eh bien, je peux vous assurer que le sujet qui est arrivé dans l'atelier d'écriture était sur la contraception et sur l'avortement en tant que grand-mère.
Mais rien
entre
n'est
nous.
Plus difficile que de poser des questions importantes à l'intérieur de
Mais
sa
là,
propre famille.
Mais là, c'est des grands-parents qui veulent écrire pour transmettre l'histoire. Ceci étant, nous sommes des jeunes grand-mères, effectivement. Enfin, des jeunes grand-mères. Moi, j'ai 70 ans. Hein. Enfin, nous sommes des jeunes grand-mères. Eh bien, personnellement, avec ma petite fille qui a 15 ans, nous parlons de tous ces sujets-là. Et plus les enfants grandissent, et plus on confie parce que nous sommes leur mémoire.
Alors justement, Héloïse Pierre, comment... Je sais que vous avez publié une sorte de guide pour interroger ses grands-parents. Quels sont les conseils que vous donnez à des jeunes qui veulent faire parler leur grand-mère? Parce que ce n'est pas du tout une évidence, en fait.
Merci en tout cas pour ce retour, c'est très précieux. C'est pas si évident, mais c'est assez facile. Je dirais qu'on a écrit un petit guide qu'on offre gratuitement sur notre page Instagram. Et je pense que la règle numéro un, c'est déjà d'être dans un moment où on a le temps. C'est de vraiment prendre le temps d'enlever son téléphone, de mettre un enregistreur et de ne plus rien regarder, de se laisser porter par le flow. Ensuite, c'est d'être très confortable. Revenir en arrière, ça peut parfois être douloureux. Donc, d'avoir voilà, de quoi manger, boire. Et ensuite, toujours de ne jamais couper. On a tendance à couper, à dire « Ah non, mais ça, mamie, je le sais déjà. » Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se coupe de tout le reste où elle allait partir. Donc, il y a voilà, ne jamais couper une phrase, laisser parler la personne en face de nous et de poser des questions ouvertes et d'oser poser. Je sais que maintenant, j'ose de plus en plus poser des questions aussi sur la sexualité. Et les grand-mères, quand elles veulent pas, elles me le disent. Elles me disent « Là, ça m'est mal à l'aise. » Bah, très bien, je vais pas plus loin. Mais parfois, il y en a qui sont très contentes de me dire « Oh, mais tu savais, si tu savais mon mari, mais quel enfer. » Ou au contraire « Oh, bah alors mon mari, c'était le pied. » Voilà, des sujets que je ne pensais jamais aborder avec une femme de 90 ans. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut oser, quoi. Et dire dès le début « Mamie, si tu te sens mal, on arrête. » T'es pas obligée de répondre, mais je vais poser les questions. Et voilà, et le prendre comme une discussion, un moment d'échange et de voilà d'oser y aller sur des sujets où on pense que notre grand-mère a pas vécu ça. Or bah, voilà, je trouve ça fascinant que d'elle-même elle veuille parler de contraception. Parce qu'aujourd'hui ma génération, on se pose des questions sur la pilule et l'effet que ça a sur notre corps. Est-ce qu'on arrête la pilule? Bah, parlons à nos grand-mères, elles qui l'ont pas eu. Voilà, comment elles ont fait? C'était quoi leur état d'esprit? Comment on vit sans pilule? Enfin, je pense qu'on a tellement en commun en fait. Mais on n'ose juste pas se parler.
Quand parler à sa grand-mère est parfois plus simple que de parler à sa propre mère, oui. Viviane Coves-Masfetti, parce que...
Ouais, alors moi, j'avoue que je ne partage pas totalement votre enthousiasme sur le fait de faire parler les grand-mères de tout. J'entends que vous dites, si elles ne veulent pas en parler, on ne les pousse pas. OK, c'est le minimum. Mais c'est pas rien de faire parler quelqu'un, de faire ressurgir des choses. Bon, ça peut avoir aussi des conséquences sur la personne à qui on s'adresse, sans qu'on s'en rende forcément tout à fait compte. En tout cas, autant de parler de choses historiques, bon, là, j'en comprends tout à fait l'intérêt, mettre en valeur les grand-mères, parler de choses intimes, je peux l'entendre, mais quand même, voilà, je trouve en tout cas que ça n'est pas d'une évidence aussi évidente. On va dire ça comme ça.
Ouais. Quand les grand-mères, parce que là, c'est vrai que Héloïse Pierre nous parle de femmes qui sont âgées et qui d'ailleurs parfois ont perdu ce lien avec leurs petits-enfants du fait qu'on ne les interroge pas et qu'elles ne sont pas suffisamment jeunes pour être dans la vie active, familiale, etc. Quand il y a vraiment des grand-mères qui arrivent dans le grand âge, les petits-enfants qui sont devenus grands peuvent devenir à leur tour une aide pour leur grand-mère. Est-ce que c'est ce qu'on peut observer ou en réalité il y a quelque chose qui se brise à ce moment-là, même s'il y a eu une relation très forte entre les petits-enfants et les grands-mères?
Je pense qu'on va répondre à tour de rôle. Moi, en tous les cas, ce que je peux dire, c'est dans un de mes témoignages, et ça a été relevé, il y a vraiment une grand-mère qui nous dit à quel point le petit-fils est venu alors que ses propres enfants s'en occupaient pas beaucoup. Et je vais peut-être vous laisser...
Oui, je vais vous donner deux témoignages. EHPAD, grand-mère âgée, dépendante, Alzheimer, deux jeunes, vraiment jeunes, 24-25, hein, enfin c'est ça, en train de jouer de la guitare. Je m'arrête, je la regarde, j'ai dit « petits-enfants ». Il me dit « oui ». On va pas la laisser. Elle nous a tellement fait de coquillettes beurre, coquillettes jambon. Deuxième témoignage, mon petit-fils, 5 ans, lové contre moi. Et on lit des livres, parce que quand il vient, c'est des piles de livres. Hein. Et puis je lui dis, mais Sébastien, l'année prochaine, tu vas être en CP. Et puis alors, tu vas savoir lire, tu n'auras plus besoin de ta mamée. Et Sébastien s'arrête, me regarde bien, puis me dit, mais tu sais, mamée, quand tu seras très, 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 très vieille et que tu auras perdu la mémoire des mots, c'est moi qui viendrai te lire des livres. Vous avez une sociologue qui s'appelle Véronica Kushnanina sur Besançon qui a publié sa thèse sur la grand-parentalité à l'épreuve du care. Et elle explique parfaitement que tout ce qui a été tissé dans la petite enfance va rejaillir plus tard. Moi, je vois très, très bien. Moi, j'ai mon petit-fils de 18 ans que j'ai tous les week-ends. On a encore des ententes extraordinaires. Et celle de 15 ans, m'en parlait pas, me confie des choses qu'elle ne confierait jamais à ses parents. Hein? Et on peut vivre, mais ça, ça s'est tissé avec le temps. Et une dernière petite phrase qui est très jolie, parce que j'en ai pas mal de mes petits-enfants. Pendant le Covid, moi, j'ai gardé mes petits-enfants tous les jours via des écrans interposés, avec des jeux, pendant de 16h à 19h. Ils n'avaient pas le droit de déranger leurs parents qui travaillaient. Et c'est moi qui prenais le relais. J'inventais des jeux avec FaceTime, avec tout. C'était extraordinaire. Donc je les
sans être physiquement avec eux.
Sans être physiquement, puisqu'ils sont de l'autre côté de la France. Donc je les gardais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les deux derniers, non-stop. Et encore maintenant, souvent, quand ma fille doit s'absenter rapidement, elle les met dans une pièce, elle dit « Vous appelez mamie, on est sur la tablette et on invente des tas de trucs. » Et ça marche très, très, très bien. N'empêche que lorsqu'ils m'ont retrouvée en juillet, après le confinement, il y en a un qui est venu serrer trop fort contre moi, qui m'a dit, comme les enfants à l'époque avaient appris à parler, « Tu sais, mamée, c'était drôlement bien de t'avoir tous les jours en distanciel, mais je te préfère quand même en présentiel. »
Merci en tout cas à vous, Régine Florin, présidente de l'École des grands-parents européens. Merci à vous, Vivienne Coves-Masfetti. Il faut vous lire « Être grand-mère aujourd'hui ». C'est publié chez Odile Jacob, avec de très nombreux témoignages, 45 grands-mères, hein, qui évoquent vraiment tous les sujets, évidemment les sujets conflictuels également, hein, de la vie quotidienne. Et merci à vous les voisins, les voisines et les voisines, surtout pour vos appels. Dans quelques instants, ce sera le journal. On va se quitter avec la voix mélodieuse de Fatima, aux origines gambiennes.
Tell me why you had to come so late. I've been feeling you. I finally can hear the words we spoke for so long. I wonder if it could be fate, 'cause I want you. But life is messing with us and we're fading. You smell my hair, you close your eyes and you pull me closer again. Somehow this don't feel real, I need to pinch myself. 'Cause then I wait another year or two till I see you again. I want you for my own, to me your royalty. Why is life so hard sometimes? I feel up at weather, I'm so torn and naked deep inside. Hey, and did me what you said last night? Or was it just one of those in the moment things you say when you had too much to drink? Yeah. And departure's waiting right around the corner. Tell me why you had to come so late. I've been needing you. I finally can hear the words we spoke for so long. I wonder if it could be fate, 'cause I want you, yeah. But life is messing with us and we faded, hey. You smell my hair, you close your eyes and you pull me closer again. Somehow this don't feel real, I need to pinch myself. 'Cause anyway, another year or two till I see you again. I want you for my own, to me your royalty. Why is life so hard sometimes? I feel a bad weather, I'm so torn and naked deep inside. Hey, and do you mean what you said last night? Or was it just one of those in the moment things you say when you had too much to drink? Oh, yeah.
De voisins sur RFI. On se retrouve bien sûr demain. Demain pour les jeunes diplômés, toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Nos spécialistes vous conseillent comme chaque mois sur vos CV, sur vos entretiens d'embauche, sur vos orientations professionnelles. Posez toutes vos questions, surtout dès maintenant, au 33 7 64 45 51 41. Et merci à l'équipe Juliette Brault, Delphine de Dianous, Divine Bertou, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Et toutes nos émissions sont à réécouter en podcast, bien sûr.